Isabelle Bresse.
Sud Radio.
C'est vous.
C'est vous.
Les idées reçues, les clichés, les peurs imbéciles ont la vie dure. En les balayant, on fera avancer les mentalités dans le bon sens pour créer plus d'humanisme et d'harmonie entre citoyens de cette planète. C'est un combat de tous les jours et parfois, le constat paraît désespérant quand on observe certains comportements ou quand on entend certains discours même. À cause de ces clichés, de ces idées reçues, on entretient des tensions et même la haine entre les diverses communautés. Il ne faut pas s'étonner alors que cela peut amener parfois la guerre. L'homme avance lorsqu'il tend la main et cherche à découvrir l'autre. Il recule quand il a peur et prononce des contre-vérités tellement énormes qu'il ne les voit même plus. Contre les clichés faciles, les idées reçues imbéciles et méchantes, osons dire non pour casser ce processus infernal qui blesse tant d'êtres humains, lesquels ne demandent qu'un peu d'amitié et de reconnaissance. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite sur Sud Radio. Si vous voulez apporter votre petite pierre à l'édifice et nous donner votre avis sur ces 10 idées reçues, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en direct au 0826 300 300. A tout de suite, ici sur Sud Radio, on défend la différence.
Isabelle Bresse.
Sud Radio, c'est vous.
Nous sommes de retour et pour cette deuxième heure, nous allons parler de la tolérance, du regard des autres, de la confiance en soi, de comment lutter contre ce regard des autres. Avec nous pour en parler, Véronique Bourgogne-Sayad. Bonjour Véronique, bienvenue sur Sud Radio.
Merci Isabelle, bonjour.
Vous êtes coach, vous aidez justement les gens à lutter contre ce regard, à s'assumer, à prendre confiance en eux.
Voilà, en fait, c'est plutôt, je les aide à comprendre leurs différences, à la découvrir. Et plus que lutter, c'est plutôt l'accepter pour eux-mêmes déjà, aimer cette différence et puis découvrir en quoi elle est un atout finalement. Même si a priori, et on va pas être angélique là-dessus, avoir une différence, porter une différence, c'est très souvent plutôt un handicap.
Ouais.
Même quand il ne s'agit pas d'un handicap, mais en fouillant bien, en cherchant, on peut se rendre compte que justement parce qu'on est différent, on apporte autre chose à notre regard, quelque chose qui n'est pas courant et on peut vraiment valoriser ça. Voilà, donc
tout
c'est ça le travail de coaching.
Et on va en parler tout au long de cette émission. On est également avec Jean-François Amadieu. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, Jean-François. Alors vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste des relations sociales au travail, ainsi que des déterminants physiques de la sélection sociale. Qu'est-ce que ça veut dire en clair ?
C'est-à-dire que, par exemple, on va beaucoup juger sur les apparences physiques de quelqu'un, sur son visage, sur son poids, sa silhouette, etc. Donc c'est notamment ça, mais bien sûr
c'est
aussi
vrai.
Sa couleur de peau, etc.
Vous êtes d'ailleurs l'auteur de 2 livres, Le poids des apparences, Beauté, amour et gloire, aux éditions Odile Jacob, et Les clés du destin, école, amour, carrière, aux éditions Odile Jacob également. Et vous avez également écrit DRH, le livre noir, aux éditions du Seuil. Donc tout au long de cette émission, tous les deux, vous allez nous apporter vos lumières sur ce qu'on va entendre. Et tout de suite, on démarre avec un premier témoignage, celui d'Alexandra. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, Alexandra.
Bonjour Isabelle.
Vous avez un blog qui s'appelle Les tribulations d'un petit zèbre, parce que vous-même êtes maman d'un petit zèbre de 11 ans. Qui a une petite différence, a priori, aux yeux de tous. Et là, vraiment, on rentre dans le thème directement du regard des autres, puisque, a priori, quand vous dites quelle est la différence de votre enfant, on vous dit que vous avez beaucoup de chance, puisque qu'est-ce qu'il a, votre enfant ?
Alors, il est ce qu'on appelle aujourd'hui un enfant intellectuellement précoce, ce que l'on appelait autrefois un enfant surdoué, enfin, tous ces termes-là renvoient à une seule réalité. Donc en fait, il a des capacités intellectuelles qui sont au-delà de la norme et qui sont également différentes en fait dans la façon de comprendre les choses.
Pour qu'on comprenne bien, il a 11 ans et il vient de rentrer en 3e. Il a donc sauté 3 classes.
Voilà. Mais tous les enfants précoces, il y a aussi des tas d'enfants précoces qui ne sautent pas de classe ou qui ne sont pas identifiés. Je veux dire, c'est pas forcément le saut de classe n'est pas forcément quelque chose que l'on retrouve chez tous les enfants précoces. Et il y a aussi
beaucoup d'enfants précoces qui sont
en échec, exactement.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a beaucoup qui sont en échec scolaire,
donc ça ne veut rien dire. C'est pas forcément, justement, c'est vraiment une idée reçue que de penser que tous les enfants précoces sont des premiers de la classe et vont très bien. D'ailleurs, le mien n'est pas particulièrement premier de la classe ni très scolaire. C'est simplement qu'il a un rythme d'apprentissage plus facile, enfin comment dire, qui lui permet d'aller beaucoup plus sans rien faire de très important comme travail personnel, d'avancer plus vite. Voilà.
Mais ce que je disais qui est difficile pour vous, c'est le regard des autres, parce que effectivement, oui. quand vous dites que votre enfant est précoce, on vous dit bah génial, vous avez un enfant super intelligent, c'est formidable, il travaille bien à l'école, mais précoce, ça veut dire aussi bien d'autres choses. Oui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ça veut dire bien d'autres choses. Ce sont des enfants qui sont. Alors après, il existe différents types d'enfants précoces. Enfin, d'abord, la précocité intellectuelle ne gomme pas non plus la personnalité propre de l'enfant.
Bien sûr.
Voilà. Après.
Mais vous concernant votre enfant, alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Concernant mon enfant, alors a toujours été extrêmement sensible. Donc, par exemple, c'est un enfant qui est extrêmement qui va pouvoir paraître de l'extérieur soupolé et qui va réagir extrêmement fort sur des choses qui vont être considérées comme étant anodines et pour d'autres enfants, c'est quelque chose qui est tout à fait banal, et lui va en faire une montagne et aura beaucoup de mal à se remettre de petites choses ou de petits pics, d'agressions, de regards, voire même de ce qu'il peut percevoir en fait de la personne en face de lui, c'est-à-dire quand il perçoit que quelqu'un ne l'aime pas, ça peut être très très difficile à vivre. Alors, c'est un enfant qui a posé très vite énormément de questions et qui était très très dans une espèce de un flot verbal extrêmement important et avec une soif d'apprendre et d'aller vers des choses extrêmement toujours très intellectuelles, mais avec en plus beaucoup d'obsessions, on va dire.
C'est-à-dire mais ça a posé des problèmes. Ça a posé des problèmes à l'école, par exemple, avec ses enseignants, etc. Ça a été très problématique.
Bien sûr. De toute façon, enfin, c'est vrai que l'école est plutôt faite pour des enfants qui vont être très situés dans la norme, et tous les enfants qui s'écartent de la norme, que ça soit dans un sens ou dans un autre, hein, que ce soit des enfants qui ont des difficultés comme des enfants qui vont s'écarter mais dans un sens plus
ceux qui travaillent trop bien ou ceux qui travaillent pas assez bien, quoi, en
exactement,
clair,
exactement, ou qui vont être très créatifs et très dans la lune, très très en décalage, ceux-là évidemment vont avoir plus de mal en fait à rentrer dans ce moule scolaire qui est qu'on impose un petit peu par la force
et résultat des choses. Résultat aujourd'hui votre enfant il n'est pas rentré à l'école?
Non, cette année, alors cette année c'est une première pour nous, alors ça va le rester d'ailleurs, hein, parce que le projet est bien défini dans le temps. Cette année ça sera une année de scolarisation à la maison, parce que les deux premières années de collège ont été bien que différentes, les problèmes n'ont pas été les mêmes, mais il y a eu énormément de difficultés sociales et de compréhension en fait. C'est-à-dire que un enfant précoce, c'est un enfant qui, malgré les idées reçues très classiques, a une grande maturité et qui, paradoxalement, ce que le psychologue niçois Jean-Charles Terrassier a identifié comme étant des dysynchronies, ce sont des enfants qui vont avoir un développement intellectuel donc très très avancé, mais un développement affectif, par exemple, de leur âge, voire même en deçà, et un développement, par exemple, psychomoteur, enfin tout ce qui est de l'ordre.
Par exemple, il ne sait pas faire ses lacets. Votre fils, il a 11 ans, il ne fait pas ses lacets.
À 11 ans et demi, oui, non, il a 3 ans d'avance, il a un très haut QI, mais il est incapable de faire ses lacets. Et
voilà,
donc, c'est
ça,
très
les
compliqué
gens,
de lui acheter des chaussures à scratch. Voilà, en 41.
Ah, bah oui, je me doute. Sylvia Kahn, alors vous aussi, vous avez un enfant précoce, et pour bien montrer les difficultés que ça peut poser, votre enfant est précoce, il a les mêmes capacités intellectuelles que l'enfant d'Alexandra, et pourtant il est plus ou moins en échec scolaire, votre fils.
Alors heureusement on a réussi à le maintenir à l'école, mais il a redoublé, il est malheureux, surtout très malheureux. Là il va en terminale, mais voilà, on a un petit peu peur quand même de ce qui va s'y passer. C'est vrai qu'en fait on est complètement face à ça, on est complètement paumé, les gens ne nous comprennent pas, l'école a du mal à comprendre effectivement les enfants différents, quel que soit le sens, comme vous le disiez très très bien. Il a aussi une maturité vis-à-vis des adultes qu'il a toujours eu, et quand il était petit, il n'avait pas du tout d'amis, mais il s'entendait qu'avec les adultes. Donc là, ça s'est régulé alors qu'il a 18 ans, donc c'est mieux. Ils ont effectivement un côté affectif complètement développé, terrifiant. Moi, je me souviens lui dire à 11-12 ans, mais je dis, mais Nathan, arrête de pleurer, c'est ridicule, là, je n'ai rien dit, je n'en pouvais plus, j'avais vraiment envie qu'il fasse un effort. Je me rendais pas compte qu'il le faisait pas exprès. Mais c'est vrai que il me semble, je veux pas dire un chiffre faux, mais que 60% des enfants précoces sont en échec scolaire. Alors je sais plus si c'est en quatrième ou en seconde, mais c'est hallucinant.
Oh oui, beaucoup sont en échec scolaire. En tout cas, ça c'est sûr. Voilà.
Et les parents et les autres parents ne vous comprennent pas parce que quand on dit bon alors toi ton fils, moi c'est compliqué à l'école, on n'y arrive pas. Mais il est très intelligent. Ah bien sûr, tu fais partie des mères qui pensent que ton fils est surdoué.
C'est ça.
Alors qu'il est nul. Voilà, ouais. Génial.
C'est ça.
Donc c'est quand même une grosse souffrance pour nous. Mais bon, c'est vrai que ce sont des enfants qui sont aussi tellement intelligents, souvent drôles et
affectueux. Ce sont des gros affectifs souvent.
Ils sont fascinants.
Véronique Bourgogne-Sayad, est-ce que on peut faire quelque chose pour aider ses parents qui sont confrontés au regard des autres? Parce que quand on a un enfant qui a un problème visible, effectivement, le regard des autres est peut-être plus empathique que quand on a un enfant qui est juste plus intelligent, mais qui génère des tas de problèmes.
Voilà, c'est ça. Donc, quand on a une différence qui est visible, comme vous le disiez, bon, il peut y avoir un regard empathique, sympathique. Bon, et puis en plus de ça, la différence est visible, donc on ne peut pas s'en cacher. On peut aller davantage de l'avant. Ouais. Par contre, quand la différence n'est pas visible, dans le cas de la surdouance, souvent même la personne concernée ne sait pas elle-même en quoi consiste sa différence. Donc, elle se rend compte que les gens la regardent bizarrement, réagissent bizarrement, alors qu'elle se sent tout à fait normale. Donc, elle est en décalage total avec le reste de la société et elle ne comprend pas pourquoi. Et elle se dit, je suis folle.
Ouais, voilà. C'est ça.
Donc, c'est horrible. Et je suis nulle. Et ils disent aussi, moi j'ai beaucoup entendu mon fils, avant de rencontrer l'organisme Cogitose, dire je suis nulle. Ce qui était pour moi un drame parce que j'essayais tellement de lui donner confiance en lui. Je me disais que c'est pas possible. Et en fait, un jour, il a rencontré les gens de chez Cogitose. Il a refait des tests qu'on avait déjà fait. Il a rencontré une psychologue et il est ressorti. Il a dit, t'as vu maman, je suis très intelligent. Je dis, oui, Nathan, ça fait juste plus de 10 ans que je te le dis. Sauf que moi, je suis ta mère, donc tu ne me crois pas. Et ça a été une vraie découverte pour lui et c'était magique parce que ce sont des enfants qui pensent qu'ils sont idiots.
Est-ce que c'est important de poser un diagnostic, Véronique, sur ces enfants-là et ces personnes-là, parce qu'il y a des adultes aussi qui sont comme ça?
Tout à fait. Alors, la question se pose souvent, notamment la question des tests, est-ce qu'il faut faire un test ou pas? Moi-même, à l'origine, je me disais non, ce n'est pas utile. Et puis finalement, le test, c'est quand même une donnée chiffrée.
C'est
indiscutable. Alors, ça ne veut pas dire que avoir plus de si on a plus de 130 au test, donc on est considéré dans les 2% de population surdouée ou potentielle.
Ouais.
Donc ça ne veut pas dire qu'on aura toutes les caractéristiques dites du zèbre, etc. Enfin on va pas rentrer dans les détails, mais au moins ça permet.
Qu'est-ce que c'est les Alors attendez, parce que je pensais que les tribulations d'un petit zèbre c'était un petit nom donné par Alexandra à son fils. Zèbre, ça veut dire quelque chose?
Oui. C'est un terme qui a été proposé par Jeanne Siofaxa, qui a écrit plusieurs ouvrages donc sur la surdouance des enfants, mais elle a vraiment contribué à faire connaître la surdouance chez les adultes pour son livre Trop intelligent pour être heureux.
Et Cogitose, si je ne m'abuse.
Pardon ?
Je crois que c'est elle qui a créé Cogitose.
Absolument. Elle a créé ces centres-là. Et donc, elle s'était beaucoup penchée sur la souffrance, justement, des adultes, et notamment des adultes qui n'avaient pas été détectés. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se croient nulles, décalées, rien du tout, alors qu'en fin de compte, ce sont des personnes qui ont un haut quotient intellectuel.
Oui, tout à fait.
En parallèle donc de cette intelligence, alors c'est pas une intelligence supérieure, c'est une intelligence différente. Par exemple, les informations vont venir en même temps. Enfin, on parle de penser en arborescence.
D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire penser en arborescence?
C'est-à-dire qu'une pensée, une idée va en générer simultanément plusieurs.
Ah oui, c'est
comme
ça.
Dans un arbre.
D'accord, voilà. Comme chez Sylvia Kahn, quoi. C'est des idées, mais
difficile. Donc ça permet une fulgurance de la pensée, ce qui fait que les solutions vont être trouvées très vite, et les réponses vont être trouvées très vite, quasiment même presque intuitivement.
C'est ça. D'ailleurs, beaucoup d'enfants précoces, par exemple en maths, ils arrivent au résultat, mais alors quand on leur demande d'expliquer comment ils ont fait, ils savent pas.
Et ils ont zéro.
Et ils ont zéro
à l'école.
Quand ils arrivent dans les grandes classes, dans les petites classes, ils ont 20, et dans les grandes classes, ils ont zéro. C'est vrai, Véronique, non ?
Ah, tout à fait, je l'ai vécu. J'ai trouvé le résultat d'une équation. Le prof me dit, oui, d'accord, c'est bien mignon, mais comment tu as fait pour trouver ? Je ne sais pas, c'est évident. Et voilà. Là, il m'a fait tout un discours sur le trajet de la Lune, du Soleil. C'est pas évident. Enfin, bon.
Et en général, c'est zéro. Et pour l'enfant, c'est un drame.
Voilà, c'est
et pour
ça.
Le parent aussi.
Ouais.
Voilà. Sauf quand le parent... ce que j'appelais la pensée à vol d'oiseau. Voilà, on va direct du point A au point B et on n'est pas capable forcément de dire quelle pensée. D'ailleurs, je crois que Einstein lui-même le disait. Il disait, en fait, tout mon boulot, moi, ça consiste à chercher après coup comment je peux faire pour trouver le résultat que j'ai déjà trouvé.
C'est ça. Einstein, d'ailleurs, qui a été considéré comme un imbécile ou comme un sous-doué jusqu'à l'âge de 5-6 ans, il ne savait pas parler correctement, etc. En tout cas, on va continuer cette discussion passionnante dans quelques instants. Alexandra, merci mille fois pour votre témoignage. Je rappelle votre blog Les Tribulations d'un petit zèbre. Si vous avez un enfant précoce, si vous voulez des renseignements, si vous vous posez des questions, ce site est une mine d'informations. En plus, le témoignage d'Alexandra permet de ne pas se sentir seule. Ça, c'est très important. Je pense que tous les parents qui vont sur ce blog le ressentent. Donc, Les Tribulations d'un petit zèbre sur Internet. Dans quelques instants, on continue. Nous allons parler de la différence également sexuelle, puisqu'on parlait avec Denis Dupertuis, qui est un homme politique qui a eu le courage de reconnaître et d'avouer son homosexualité. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio,
c'est vous.
C'est vous.
Isabelle Brass.
Et dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler et nous parlons de la tolérance, des idées reçues, des clichés, des peurs imbéciles qui ont la vie dure. On a parlé des enfants précoces à l'instant et on va parler maintenant des idées préconçues, même s'il y a tout un travail qui est fait et que les mentalités ont énormément évolué, qu'aujourd'hui on peut se marier, quel que soit le sexe. Malheureusement, il y a encore tout un tas d'idées reçues. Jean-François Amadieu, effectivement, vous êtes spécialiste, vous êtes sociologue, spécialiste des relations sociales au travail. Est-ce que l'homosexualité est bien perçue dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui ?
Écoutez, ça dépend de quel domaine on parle. Au travail, notamment. Oui, alors, effectivement. Non, parce que je disais, si vous voulez, ça dépend si on est dans le domaine de la politique, dans la vie courante, au travail, etc. Disons que dans le domaine du travail, il y a des discriminations qui sont attestées. Nous, on a fait des tests, par exemple, à l'embauche. Si quelqu'un envoie un CV en indiquant qu'il a des activités associatives qui indiquent ou qui laissent supposer que la personne est homosexuelle, s'il s'agit d'un homme, dans ce cas, il a moins de chances d'être embauché. Il y a des études sur les écarts de salaire. Un gay gagne en moyenne 6% de moins.
C'est fou,
toutes
ça.
Choses égales par ailleurs en France, ouais. C'est pareil aux États-Unis. Alors, pas les lesbiennes, qui ne sont pas... Il n'y a pas de perte de salaire dans leur cas.
Ah bon ? Mais comment on explique ça, qu'il n'y ait pas cette différence-là entre...
qu'on a fait dans plusieurs pays. Ça peut correspondre... je pense que c'est... Il y a peut-être d'autres des explications... peut-être en raison de la perception des femmes au travail, du type de... Il y a d'autres caractéristiques. Mais en tous les cas, il y a bien des problèmes, en effet, qui sont posés. Donc c'est pas... je dirais qu'il n'y a pas aujourd'hui une égalité parfaite des chances, même si, évidemment, si on compare à d'autres types de discrimination, d'écart de salaire ou de chance à l'embauche, c'est pas énorme non plus. Je veux dire que si vous regardez, par exemple, les effets de l'origine extra-européenne sur un CV d'un patronyme africain, ou si vous regardez les écarts ou la situation d'une personne obèse, c'est beaucoup plus considérable. Donc ça, mais c'est plus important. Bon, mais néanmoins, ça existe beaucoup. Alors après, il y a tout le registre de ce qu'on appelle le harcèlement ou les moqueries, etc., qui là aussi, évidemment, sont importantes. Si on prend dans le domaine politique, les Français sont assez tolérants, puisque vous avez beaucoup dans le personnel politique, dans toutes les formations politiques, vous le savez, on en parle beaucoup d'ailleurs, mais il y a une forte, évidemment, une représentation jusqu'au plus haut niveau de personnes homosexuelles, hommes en particulier, d'hommes. C'est les Américains, en revanche, et on le voit dans d'autres pays, il n'y a pas seulement aux États-Unis, sont par contre beaucoup plus frileux. Alors là, justement, si on compare, ils acceptent un président noir. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils ne voteraient jamais pour un candidat homosexuel.
Oui. Alors Jean-François Amadieu, justement, on est en ligne avec Denis Dupertuis. Bonjour Denis, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes homme politique, vous êtes d'Annecy. Et vous, vous avez un blog dans lequel, effectivement, vous revendiquez même votre homosexualité et vous revendiquez le fait d'avoir le droit de vivre votre vie comme vous l'entendez. Est-ce que le fait d'avoir voulu publiquement dire votre homosexualité, c'était aussi un moyen de faire avancer cette cause ? On vient de le voir avec Jean-François Amadieu, qui reste encore une cause sur laquelle il faut travailler.
Oui, c'est vrai que ça s'inscrivait dans un contexte un petit peu particulier. On avait eu localement sur la Savoie un suicide d'un jeune homosexuel qui avait été rejeté par sa famille. Bon, c'était un témoignage, enfin un fait divers, j'allais dire, qui m'avait énormément touché parce que je pensais, comme vient de le dire Jean-François, que les mentalités avaient quand même évolué et comme on peut le penser, avec le droit de se marier, avec un certain nombre d'avancées qu'il faut reconnaître. Et puis on se rend compte que quand même, oui, ça avance, mais très doucement, qu'il y a encore des gens qui sont discriminés, qui ont des problèmes avec cette question-là, et des milieux familiaux qui parfois ont du mal encore à l'accepter, notamment peut-être dans des territoires un petit peu plus ruraux ou un peu moins proches des centres urbains. Donc,
est-ce que vous-même, Denis, excusez-moi de vous couper, est-ce que vous-même, oui, vous avez été confronté justement à ce problème-là avec votre famille, avec vos amis, avec votre entourage ? Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous êtes senti obligé de vous cacher de votre homosexualité ?
Alors non, moi personnellement, j'étais plutôt dans une famille assez tolérante, mais le fait de l'acceptation par soi-même de sa propre homosexualité prend, je crois, quand même plus de temps. Il faut du temps pour mûrir tout ça, pour se l'accepter, parce qu'on est dans des petites villes, dans des lieux où c'est des choses qui posent des questions peut-être différemment. On n'a pas des associations, j'allais dire, comme on peut peut-être trouver en ville, en grande ville. En tout cas, on est plus seul face à cette réalité qui est la nôtre, et donc ça oblige à un travail sur soi et à une acceptation qui est beaucoup plus longue, je pense.
Ouais. Aujourd'hui, vous vivez avec quelqu'un, vous vous affichez sans problème. Est-ce que vous en faites un cheval de bataille ou est-ce que vous juste demandez le droit de pouvoir vivre comme n'importe quel couple sans avoir droit à des moqueries ou à des réflexions ? Est-ce que c'est important pour vous que ça devienne normal ?
Oui, moi ce que je souhaite, c'est le droit, j'allais dire, à l'indifférence d'une certaine manière, c'est-à-dire le droit d'être reconnu chacun dans sa différence, mais de pouvoir vivre les uns avec les autres sans être obligé de se voir coller une étiquette particulière, parce qu'on peut être homosexuel mais avoir plein d'autres qualités ou plein d'autres défauts d'ailleurs, peu importe, mais ça résume pas une personne, et malheureusement dans nos sociétés on est un peu toujours à coller des étiquettes, à mettre des slogans derrière les personnes pour les mettre dans des cases. Je crois qu'on est tous très divers, d'ailleurs vous l'avez dit et Jean-François l'a dit aussi, on trouve des homosexuels à gauche, à droite, un peu partout, donc ça fait plus une identité. C'est une fois qu'on a dit ça, on a dit quelque chose, mais on n'a pas dit grand chose quelque part.
Oui, mais pourtant, excusez-moi, on a tous en tête il y a quelques mois le passage de Sébastien Chenu auprès de Marine Le Pen. La seule chose dont on a parlé, c'est du fait qu'il était homosexuel et qu'il rejoignait le Front National. Donc l'homosexuel, c'est pas neutre. Il aurait été hétéro, on aurait juste dit voilà, il a rejoint le Front National, voilà, une nouvelle prise de guerre pour Marine Le Pen. Là, on dit en plus il est homosexuel.
Oui, et bon, je pense que ça a à voir avec l'histoire de ce parti en particulier qui a été très longtemps un parti assez hostile à l'homosexualité. C'est vrai que c'est, bon, politiquement ça peut avoir du sens, mais moi ce que je souhaitais c'est dire, et oui, il y a des hommes politiques nationaux qui ont fait leur coming out, qui, bon, et c'est très bien, il fallait, mais je crois qu'aussi on a besoin, moi c'est pour ça que je l'ai fait, d'avoir des exemples, ou en tout cas des cas, si je veux dire, plus locaux, auxquels les personnes peuvent parfois se raccrocher. Moi, depuis que j'ai fait mon coming out, j'ai eu énormément de témoignages. J'en ai été très surpris, plutôt gentil, pour reprendre le thème de votre émission à mon endroit, très longtemps. Mais aussi, j'allais dire, des jeunes qui me disent, ça nous fait du bien d'entendre des gens locaux, qu'on peut croiser dans la rue, qui nous parle, qu'on voit, parce que ça casse un certain nombre de préjugés, un certain nombre d'idées. Je vais peut-être
peut-être, mais moi je ne me promène pas sur des chars dans la Gay Pride. Bon, je dis pas que c'est pas bien, c'est comme ça, mais voilà, dit autrement, ça permet aussi d'humaniser et de créer un lien direct entre un certain nombre de personnes qui peuvent avoir des craintes, des peurs par rapport à cette différence et leur dire, bah, vous voyez, à côté de vous, chez vous, dans votre ville, il y a plein de gens qui vivent cette différence et qui vivent très heureux. Et c'était aussi un témoignage vis-à-vis des jeunes, notamment, de leur dire, cette différence, ça peut être une force pour vous, il faut pas vous en cacher, il y a pas nécessité de la revendiquer, mais soyez fiers de qui vous êtes.
En tout cas, Denis Dupertuis, merci d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné. Vous avez un blog qui est vraiment aussi un blog où on échange beaucoup de choses, qui est très ouvert, très humaniste, qui s'appelle Entre nous soit dit, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Entre nous soit dit, et vous êtes donc à Annecy. Merci encore d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Jean-François Amadieu, vous restez avec nous. Véronique Bourgogne-Sayad, vous restez également avec nous. Dans quelques instants, on va parler de la différence, mais cette fois-ci de la différence physique, avec une agence de mannequins qui s'est spécialisée dans des modèles avec un physique différent. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bresse.
Et dans cette deuxième partie de l'émission, nous parlons de la différence et de la confiance en soi, comment lutter contre le regard des autres. Nous sommes avec Véronique Bourgogne-Sayad et Jean-François Amadieu. Véronique, vous êtes coach, vous aidez justement vos clients et sur votre blog à gérer sa différence, à l'accepter, à bien vivre avec. Et Jean-François Amadieu, vous êtes sociologue et vous êtes spécialiste des relations sociales au travail, ainsi que des déterminants physiques de la sélection sociale. Vous êtes l'auteur de deux livres, Le poids des apparences, beauté, amour et gloire, aux éditions Odile Jacob, ainsi que DRH, le livre noir, édition du Seuil 2013. Nous accueillons Sylvie. Bonjour Sylvie, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour.
Sylvie, vous avez une agence de mannequins, pas comme les autres, qui s'appelle Wanted. Qu'est-ce que c'est votre agence de mannequins ?
Alors c'est une agence de mannequins pour des physiques atypiques, c'est-à-dire les gens qui sont différents des normes de beauté classiques.
Je suis sur le site de votre agence, donc qui s'appelle Wanted, et je vois effectivement des mannequins qui ont des physiques très très particuliers, des physiques qui peuvent parfois même faire peur. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer une agence avec des physiques aussi particuliers ?
Eh bien, c'était justement pour un peu promouvoir la différence, dire qu'on n'est pas forcément dans un moule et que tout le monde peut être beau. Après, voilà, ça dépend des critères qu'on a.
Est-ce que parmi les gens que vous avez dans votre agence, il y a des gens qui ont vraiment des problèmes pour vivre dans la société ? Je vois que vous avez des gens notamment qui ont des problèmes de peau, qui sont tatoués de tous les côtés, qui ont des physiques vraiment très compliquées. Est-ce qu'ils vous rapportent que pour eux, c'est le regard des autres est compliqué ?
Non, pas du tout, parce qu'à partir du moment déjà où ils se présentent à l'agence, c'est qu'ils ont accepté leur différence. C'est qu'ils vivent avec et qu'ils s'en servent. Quoi. Les gens tatoués, bon, en général, c'est sûr qu'ils ne travaillent pas forcément.
Ouais.
Oui, c'est volontaire. Quant à ceux qui ont des problèmes de peau, etc., ils ont dépassé ce regard des autres qui, en fait, n'est plus le même depuis qu'ils s'acceptent, eux.
Jean-François, vous êtes spécialiste et effectivement des différences physiques également. Quel est le travail fait par les gens pour pouvoir accepter le regard des autres ?
Vous savez, les techniques qu'utilisent les gens actuellement, déjà il y en a une première, c'est que beaucoup qui ont des complexes ou qui ne sont pas bien avec leur apparence la modifient de plus en plus. Donc au lieu de l'accepter telle qu'elle, ils font chez le chirurgien esthétique ce qu'ils font de plus en plus. Ils adoptent, ils font un bypass, etc. Donc en fait, ça c'est le premier élément. Alors vous allez me dire, c'est peut-être une mauvaise réponse au problème, mais c'est pas là, on n'est pas dans l'acceptation, on est dans la modification. C'est quand même ce que font souvent les gens. Après, effectivement, la solution, et d'ailleurs c'était évoqué par Denis tout à l'heure dans votre émission, une des solutions pour l'acceptation consiste à réaliser qu'on n'a pas une seule identité, on n'a pas une seule caractéristique, mais tout un ensemble de caractéristiques. Et souvent, effectivement, notamment quand on aborde les questions du regard des autres, de la moquerie, de la discrimination, etc., on a toujours ont tendance, si vous voulez, et c'est tout le temps comme ça, à focaliser sur un élément. Et en fait, effectivement, les gens qui eux-mêmes, sur leur apparence, ne sont pas satisfaits, vont focaliser sur un élément. Mais en fait, les identités des individus sont plurielles. Et donc, si vous voulez, c'est un ensemble, et naturellement, c'est parce qu'il y a d'autres éléments qui font que finalement, à d'autres titres, vous êtes adorable, vous êtes différent, mais à d'autres titres aussi. Et donc, en fait, il y a de multiples sources d'identité, et les gens ne sont pas un seul élément. Donc, effectivement, c'est un peu banal de le dire, mais c'est quand même vrai. Et souvent, c'est une grosse différence entre l'approche pour le moment, mais c'est en train de beaucoup de changer. On réalise qu'effectivement, il ne faut pas en rester à une seule caractéristique.
Effectivement, mais on ne peut pas nier que quand on rencontre une personne pour la première fois, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est son physique, c'est parce qu'elle est à l'intérieur. Chez les enfants, c'est très compliqué. Au travail, j'imagine que c'est très compliqué aussi. On dit souvent pour négocier.
On veut dire par le fait que les gens sont plusieurs ces éléments à la fois. C'est que si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, vous prenez la différence entre quelqu'un qui est noir et blanc de peau. En réalité, toutes les études américaines, et on le sait maintenant de mieux en mieux, montrent qu'il y a une infinité de... C'est un continuum, mais il y a beaucoup de différences selon que votre peau est plus ou moins noire. Les différences sont considérables, et bien sûr, dans la perception des autres. C'est la même chose avec la taille, le poids ou les silhouettes. Par ailleurs, on peut avoir un visage. Supposons que vous avez un visage, il est plus ou moins agréable, plus ou moins jeune, vieux, etc. Peu importe. Vous avez un visage. Mais, par exemple, et on fait des travaux sur ça, il y en a aussi beaucoup à l'étranger, n'importe qui, et tout le monde le sait en pratique, bien entendu, la façon dont vous allez vous maquiller va avoir un impact considérable. Par exemple, dans le domaine du travail, il faut savoir que le simple fait d'être maquillé pour un entretien d'embauche accroît considérablement vos chances d'être embauché parce que vous allez avoir l'air plus intelligent et plus compétent.
Ah c'est absurde. Il y a des études qui ont été faites là-dessus.
Bien sûr, c'est absurde. Nous-mêmes, d'ailleurs, ça a été fait aux États-Unis et nous, à l'université et dans mon équipe, on l'a vérifié en France sur des embauches. Donc, c'est sûr, c'est certain. Et si vous voulez, donc ça montre que, bien sûr, vous avez une tête, c'est entendu, elle peut être perçue de telle ou telle manière, mais enfin, je dirais que les préconisations qu'on trouve dans n'importe quel magazine et que chacun sait, puisque je pense que peut-être 80 ou 90% des femmes se maquillent tous les jours, mais si vous voulez, c'est une évidence, par exemple, au travail. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que, et je ne parle pas du look, de l'aspect vestimentaire, de tout le reste, de votre démarche, de votre c'est un ensemble. Donc là, l'apparence, si vous voulez, est un ensemble finalement compliqué qu'on ne peut pas résumer à une seule variable. Alors vous allez me dire, chacun sait ça, et puis ça n'empêche pas qu'on vous voit, les autres vous voient sur une caractéristique peut-être majeure. Mais il faut réaliser que ça n'est qu'une caractéristique et il ne faut pas sous-estimer l'ensemble, vous voyez, de tout le reste.
Bien sûr, bien sûr. Véronique Bourgogne-Sayad, donc vous avez un blog qui s'appelle Être différent et votre boulot à vous de coach, c'est de faire en sorte que les personnes différentes arrivent à s'accepter. Quand on a un physique différent, parce qu'on a parlé d'homosexualité, on a parlé de précocité intellectuelle, on n'a pas encore parlé de différence physique. Quand vous avez des gens qui arrivent et qui ont ce genre de différence, comment est-ce que vous les aidez à s'accepter ?
Déjà en pouvant, en les aidant à porter un regard objectif aussi sur leur aspect. Parce que souvent, dans sa tête, on se dit « Ouh là là, je suis énorme, je suis gros, ou je suis tout petit, ou quoi. Enfin, »
bon, j'ai un gros nez, j'ai des petits seins, des gros seins.
Voilà, et souvent on a une vision déjà déformée de soi-même. Donc ce qu'on peut faire déjà c'est vraiment apprendre à se regarder sur des photos, dans le miroir on peut pas se voir hein, dans son miroir puisqu'on se fait la tête forcément on se regarde dans le miroir donc on se regarde tellement méchamment qu'on ne peut être que moche. Voilà, donc apprendre à se voir à travers des photos, mais bon l'essentiel c'est surtout faire surgir la personne qu'on est. Je pensais au film Elephant Man.
Oui, bien donc, sûr. Voilà, très beau forcément. Film, magnifique film.
Voilà, très très émouvant. Et puis donc, qu'est-ce qui ressort de ce personnage ? C'est son humanité, c'est ce qu'il est en tant qu'individu. Je pense aussi à, notamment, un petit peu dans le même ordre d'idée, à Adam Persson qui est atteint d'une maladie qui déforme son visage. Ouais. Et lui-même disait, il faut se poser en pédagogue finalement. C'est normal que les gens aient peur face à la différence. C'est normal qu'il soit gêné. Donc, la personne qui porte la différence doit être consciente de ça, accepter que ce soit comme ça, et puis dire bon bah c'est à moi de faire comprendre à l'autre que je suis une personne très chouette ou pas chouette, enfin bon, une personne normale en dehors de l'aspect physique, et ça finalement c'est ce qui va ressortir, et ce qui aide c'est justement de se positionner dans ce rôle de pédagogue, parce que ça revalorise à l'intérieur, on se dit bon voilà, je suis pas juste à défendre mon physique, je ne suis pas à me justifier, à essayer de convaincre l'autre que je suis bien. C'est, je suis moi-même dans une posture qui est valorisante, qui est, ben voilà, je permets à quelqu'un de grandir.
Tout à fait. Alors ça, c'est facile à dire quand on est adulte, et encore, quand je dis facile à dire, pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont beaucoup de mal à s'accepter, mais quand on est enfant ou adolescent, on sait que le regard des autres est vraiment très dur. Les enfants sont pas tendres, et les adolescents encore moins. On a tous en mémoire, dans les cours de récréation, des mauvaises blagues, le vilain petit canard qui était rejeté parce qu'il était trop gros, pas assez dans les normes, etc. Il vient de quoi ce regard des autres? Comment on peut faire pour aider son enfant à s'accepter?
Non, déjà, ce qui arrive souvent chez un enfant, c'est qu'il se cache. C'est-à-dire quand il a subi des brimades à l'école, il n'ose pas en parler chez lui.
Ouais.
Parce que c'est difficile de répéter les mots durs qui ont été entendus, déjà. Ouais. Lui-même, il n'a pas envie de les revivre, de les redire. Et puis aussi parce qu'il a peur de faire de la peine à ses parents. Alors déjà sur ce point-là, en tant que parent, ce qu'on peut faire, c'est rassurer l'enfant là-dessus, enfin lui faire comprendre dans l'éducation, au fil de l'éducation, sans forcément focaliser sur son aspect physique, mais lui faire comprendre d'une manière générale qu'on est fort et qu'on peut entendre ce qui se passe pour lui à l'extérieur, qu'on est là pour l'aider à grandir et que la souffrance de l'enfant ne va pas nous faire souffrir nous en tant que parents. On ne va pas être fragile avec ça. Donc si l'enfant grandit avec cette certitude que le parent est là pour le défendre et qu'il est capable de tout encaisser, je pense qu'il aura beaucoup plus de facilité à dire « Ouais, bah, à l'école, on m'a dit ceci, on m'a traité de cette façon, etc. etc. » Et ça sera déjà ça. Alors bien sûr, ça ne va pas tout résoudre. Hein, ce qu'il entendra à l'école, il l'entendra. Ça, on ne peut pas l'éviter. Par contre, il aura cette certitude d'avoir un regard chez lui, enfin la possibilité de parler, de s'exprimer. Et une fois que c'est extériorisé, ça va déjà beaucoup mieux parce qu'on
peut déjà commencer. Voilà, on peut déjà commencer à avancer. Jean-François Amadieu, est-ce qu'il y a une grosse discrimination physique à l'embauche? Et en clair, est-ce que quelqu'un de moche a plus de mal à trouver du travail que quelqu'un de beau?
Oui, évidemment. Alors nous, on a fait beaucoup de tests par envoi des CV, de CV. On l'a fait sur des milliers d'envois, hein, pour tout type d'emploi. Donc, vous faites varier la photo et vous mettez évidemment les mêmes diplômes sur des CV. Vous regardez ce qui se passe. Alors bon, il y a des concrètement, ça va dépendre des types de jobs. Il est certain quand c'est un emploi en contact avec la clientèle, pour un poste de vendeur, de commercial, et je parle pas des hôtes ou hôtesses d'accueil, là, évidemment, il y a un effet très très fort de vos visage.
Alors,
ce qui joue beaucoup, c'est, je vous dis, c'est pas seulement le fait d'avoir un beau visage ou un visage plus ordinaire, c'est aussi, qu'on a testé, mais c'est aussi l'effet du poids. Donc, l'obésité est un facteur très très discriminant aujourd'hui, qui joue beaucoup. Donc, alors après, ce qui arrive, et ça on l'a vérifié en France, aussi à l'étranger, on l'a observé, il peut se passer aussi que, ça c'est un cas très particulier, pour certains emploi où on recherche un peu de sérieux, une femme qui a un joli visage et qui serait habillée de façon peut-être très sexy, on va parler comme ça, peut être discriminée. Donc là, on a
un préjugé, là, c'est l'inverse.
Vous voyez, c'est
tout
la blonde un peu superficielle.
Bien sûr, c'est
donc,
pas
ça, on l'a vérifié, c'est pas un mythe, ça existe.
Jean-François Amadieu, oui, sa discussion est passionnante et je pense qu'elle va faire l'objet d'une prochaine émission parce qu'on a encore des tas de choses à dire. Merci mille fois Jean-François d'avoir été avec nous. Je rappelle votre dernier livre, DRH, le livre noir aux éditions du Seuil. Et puis Le poids des apparences, beauté, amour et gloire aux éditions Odile Jacob. Merci Véronique Bourgogne-Sayad d'avoir été avec nous. Votre blog, Être différent, sur lequel il y a plein d'informations. Et puis Sylvie Fabregon de Wanted Models. À demain, je vous embrasse bien fort.